Diagonale du vide. La diagonale du vide est une large bande du territoire français, allant de la Meuse au Land, où la densité de population est très faible par rapport au reste de la France.
Vous écoutez un podcast géographique. Je ne suis pas Benoît Giraud, mais c'est bel et bien depuis la diagonale du vide. Et la diagonale du vide, cette semaine, c'est ici et maintenant. Je vous imagine, vous êtes artisan et vous travaillez dans votre atelier. Et au lieu de mettre la radio en fond sonore, vous avez choisi d'écouter un podcast dont le titre vous intrigue. Sinon, vous avez peut-être décidé de confectionner de la bière artisanale et vous roulez dans la campagne à la recherche d'une source d'eau pure pour qu'elle soit la meilleure possible. Il fait beau malgré la saison tardive. Et s'il ne fait pas assez chaud pour ouvrir la vitre de votre voiture, le soleil est assez brillant pour vous inviter à ressortir les lunettes de soleil et vous caler dans le siège, deux doigts légers sur le volant. Ou peut-être êtes-vous vous-même un de ces amateurs qui concoctent dans leur bureau les émissions de radio qu'ils aimeraient entendre plus souvent dans le poste. Et là, vous faites une pause. Alors, pour ne pas laisser le silence s'installer, vous lancez un épisode spécial de la Diagonale du Vide qui n'a pas, cette fois-ci, était réalisé par Benoît Giraud, ce qui est intriguant tout de même. J'étais en vacances cet été en Bourgogne, et comme cette région fait aussi partie de la Diagonale du Vide, j'ai eu l'idée de rendre hommage à Benoît et d'accrocher un petit micro discret sur la sangle de mon sac à dos, et ensuite de laisser le monde venir à moi. On va aller se promener, sous terre pour commencer, à la grotte de Blano, au pied du mont Saint-Romain, près de Cluny. Ensuite, nous irons écouter le concert des anciennes moissonneuses-batteuses pendant une fête de village. Fête de village avec son vide-grenier et ses artisans qui tiennent des stands pour montrer leur savoir-faire. Peut-être aussi irons-nous déambuler dans les villes anciennes, visiter une église ou l'autre.
Cette grotte a donc été découverte par un certain docteur Dumoulin en 1739 pour la première fois. Et quand lui, il est venu ici pour la première fois, il avait avec lui seulement quelques cordes, quelques chandelles et trois bouteilles de Bourgogne. Mais il n'avait pas du tout la même vision de la grotte que celle que nous, on peut avoir aujourd'hui. Pas à cause du vin, mais simplement parce qu'aujourd'hui, on a l'éclairage artificiel, on a une bien plus grande idée de la taille de la salle. Alors qu'à l'époque, quand lui il est descendu avec sa chandelle, il pouvait voir à peu près 50 cm, 1 mètre autour de lui. Donc il n'avait pas du tout la même idée.
Il a tout exploré seul ou avec des amis des...
Alors, il a exploré seul au début, et après, par la suite, il est revenu plusieurs fois. Donc il y a pas mal d'écrits, il a écrit un manuscrit, on pourrait dire, qui a été retrouvé dans les archives de Cluny.
D'accord.
Et donc j'ai eu l'occasion de feuilleter un peu sur le manuscrit, il va d'ailleurs numérisé.
Ah ouais.
On va pouvoir le retrouver dans les archives départementales sur le site des archives. Donc ici, il y a 2 ans, ils ont découvert une nouvelle salle, 6 mètres plus haut, une galerie qui part sur la gauche. Donc ils y sont montés avec un de mes collègues guides et un spéléologue. Et à bout de cette galerie, ils ont donc découvert une salle remplie de concrétion, de formation de calcaire, entièrement intacte. Donc qui n'avait jamais été touchée, oui. Voilà, exactement. Donc entièrement intacte et qui n'avait peut-être même jamais été vue en fait. C'était c'est impressionnant.
Et donc ça reste encore secret.
Oui. Alors on va pas, on ne la rendra pas accessible au public. Il faut s'imaginer que toutes les galeries qu'on traverse là, c'est seulement la création de l'eau. Il n'y a rien qui a été creusé par l'homme. Donc il y a seulement un endroit quand même.
Un peu élargir,
effectivement, pour qu'on puisse faire un tour, pour qu'on ne soit pas obligé de faire demi-tour.
Donc ça, c'est un petit fossile d'oursin.
Ouais.
Donc ça prouve qu'il y a eu un milieu marin, mais peu
profond. Ouais, une grosse retour.
Donc cette salle-là, elle a été découverte par deux spéléologues d'ici en bas, on ne voit pas très bien. Mais la galerie, elle part juste là, en fait, après ce rocher. Et donc pendant une des visites ambiance spéléologie, on y est allé. Donc ça va, sur quelques mètres on peut encore être accroupi, juste après il faut se mettre à plat ventre. Et on a quand même un peu de mal à s'imaginer comment ces deux spéléologues étaient passés par là. C'est très étroit, c'est vraiment très étroit. Donc la rivière en fait elle passait ici, elle continuait là. Donc on peut voir qu'ici dans cette salle elle était moins impressionnante que dans celle qu'on a traversée avant, elle s'est divisée en fait. Donc ici c'est plutôt une salle d'éboulement. Les rochers se sont détachés, ça a bougé, à peu près à la même époque donc, que la salle du bateau. Je me souviens pas quand, en fait, mais je sais que c'est à peu près en même temps. Et donc la rivière passait ici, elle a creusé cette galerie-là. Celle-ci continue sur une douzaine de mètres, et après elle descend sur une douzaine de mètres.
Il est très dangereux maintenant.
Ben, à mon avis, passé, on va être mal. Hein. On va être mal.
Ça me paraît, comment dire, je suis compliqué pour mon jeu.
Par une baraque, ou un truc comme ça.
Là, quand je suis parti au pays, j'ai plein les arts. Ah. Et puis, tout le monde.
De samoussa, pakoras, sec kebab, salade poulet tandoori.
Il vient l'assiette tandoori. Au moins, tu es sûr, le poulet tandoori, ça tu connais. T'as pas de risque. Tu prends avec des frites, comme ça, t'as encore moins de risque. Tu es sûr que t'as pas de curry.
Le poulet que le riz
curry, tu ne poseras pas de problème.
Ne pique pas.
Tandoori, c'est pas piquant. Hein. Bonjour. Alors, on va prendre une assiette mix avec une barquette de frites. Moi, je vais prendre une assiette tandoori avec curry, riz.
Moi, je vais prendre une assiette tandoori. Votre riz au curry est épicé ou...
Non.
Non ?
Pas d'épicé.
Il est épicé, mais pas pimenté.
Et deux assiettes tandoori avec du riz, oui. Une assiette mix et une barquette de frites.
Ok.
Est-ce que vous voulez du pain, mais
oui.
Donc galette, fromage ou nature
Fromage, tu veux fromage ?
Moi, j'ai jamais goûté.
Moi, j'aime bien une nature et une fromage.
C'était différent.
Bonjour. Lavoir automatique. Je ne connaissais pas.
C'est avec la cloche, non ?
Non. Donc, vous mettez un réservoir d'eau. Hein, et donc, l'eau, il y a un système qui vous régule votre eau dans votre bac.
Ouais.
Et ça, c'est tout en zinc.
C'est pas trop gros, aussi ?
Ah non, c'est assez long.
C'est vendu, là. Hein.
Ah, la madame, elle est là, il faut surveiller, hein.
Les messieurs dames, on est
contents. Excusez-nous, mais on est passé, on s'est levé tôt ce matin.
Ouais,
à 10h.
Désolé.
Bah, vous laissez votre valise ?
Ouais.
Non, vous avez...
Ah, bah, vous laissez un
téléphone. Ah, bah, vous connaissez. Vous avez trotté.
Ouais, c'est pas mal.
Attendez, mon téléphone ou vous me laissez votre téléphone?
Ah bah oui, comme ça.
C'est peut-être plus simple, mon
téléphone,
ça
tombe
belle.
Bah oui.
C'est dur à trouver dans
le téléphone. La mise en place. Bonne fin de journée, j'ai du bruit.
Après, ça c'est...
Bon, le vœu, c'est carrément.
Oui, on va regarder.
Ça fait bien le
repas.
Moi je te dis ça, mais tu le dis à personne. Hein.
Et puis l'eau, sans presse de
le dire.
C'est fait
la semaine dernière.
Oh, bah je sais bien. Et alors, c'est quoi? Un deuxième
bien. Je vais le voir.
Là, il y a vacances, alors tu peux le voir.
Fin de semaine, Laurent.
Tu sais, dans la semaine d'après,
parce que tu penses. Vous êtes parti un peu 37
heures. Voilà.
J'envoie un texto.
Possible, hein,
monsieur.
Bonjour, il vous reste du café?
Oui, de tout.
Eh ben, allez-y.
Allez, un petit jus.
Souris un peu.
C'est bordel.
Quelqu'un là-dedans?
Excusez-moi.
Okay.
Merci.
Un euro, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Un jus? Ouais. Ou un blanc? Ou une bière? Un jus.
Ouais. Là, c'était pour faire la farine. C'est beaucoup de farine. Bah ouais.
Qu'est-ce qu'il a mis dedans?
Qu'est-ce
qu'il a mis dedans?
Je sais pas, j'ai pas vu. À mon avis, c'est toujours sur le maïs.
Mais si c'est du grain, c'est normal.
À mon avis, c'est du grain, c'est pour faire la farine.
Pour sortir la farine du...
Ça serait la suite.
C'est 12 euros.
À 12 euros, il y avait l'apéro, l'entrée, il y avait de la charcuterie, tout ça que justifiait.
Il y avait l'entrée, le plat, le dessert avec un kir.
À l'époque, ils s'en foutent, mais maintenant.
C'est pas ce que c'est toujours important, ça.
Un tracteur.
Oui, il en mettait des partout. Un
tracteur vert.
Je
ne
sais pas, ils vont démarrer, ils le laissent.
Mais
on va
aller voir les Solex. Ça pollue.
Sentez la bonne odeur du diesel, du gasoil de chauffage rouge. Nous, on en avait un comme ça à la maison.
Bah, celui de ma mère, il ressemble à celui-là.
Un Peugeot, tu vois, c'est un Peugeot.
C'est vraiment ouf.
Avec la selle, avec amortisseur. Et puis, la pochette avec l'équipement pour réparer. Indispensable, tu vois, toujours. Hein. Et les bons vieux Solex. Ta maman, elle en avait un.
Ah bon?
Ouais. Entraînement sur la roue. Tu te poses sur la roue, ça fait tourner ta roue. Traction avant.
C'est un truc électrique.
Un moteur à essence.
C'est comme maintenant un électrique. Donc ça c'est à l'essence, mais c'est tout tourné.
Ça c'est un Solex. Il y a une roue qui tourne. Regarde en dessous. Tu vois de la molette?
Ah ouais.
Qui tourne, qui se pose sur la roue et qui t'entraîne ta roue.
Parce que à électrique, c'est aisé, donc c'est plus facile. Alors que là, ça a l'air d'être vraiment tout à puissance.
Là, c'était super casse-gueule parce que c'était sur l'avant. Donc, si jamais ton truc il partait de travers, foutait de la tronche par terre, t'en as rien. La paille, il fait des ballons. Là, t'as la batteuse. Alors, elle va taper sur les épis pour faire tomber les grains de blé. Et puis après, avec un système de vibration, elle peut éjecter dans le panier. On va faire le tour, on va voir qu'il y a le panier vert là derrière. Le blé tombe dedans. Et elle éjecte la paille. Et la paille, quand la moissonneuse d'un côté et la batteuse, donc là c'est la batteuse. La moissonneuse c'est celle qui coupe le blé. Là c'est la batteuse. Et l'autre c'est l'empailleuse, c'est les ballots. Alors là ils sont totalement séparés. Comme avant, on avait une moissonneuse qui coupait. On avait des gens qui mettaient dans le chariot. Et après on allait. Parce que souvent c'était des machines à vapeur. Maintenant, toi, elles sont entraînées par la courroie du tracteur. Donc en fait, le tracteur ne sert pas comme véhicule, il sert comme moteur. Avec la sangle, il fait tourner l'appareil. Là, celle-là, je ne sais pas comment elle active. Alors là, on a celle-ci, elle est batteuse-lieuse. Donc elle bat et elle fait tomber la paille, tu vois, directement dans le système qui forme les ballots.
C'est
pour ça que tu vois des ballots. Alors maintenant, ça c'est encore des ballots qui sont toi de taille raisonnable. C'est des ballots qui servaient encore quand on avait une vache et qu'on avait besoin de tailler au sol là où les vaches restaient à l'étable. Et puis progressivement, ils ont fait des blés de plus en plus courts parce qu'ils ont moins besoin de paille. Les blés sont de plus en plus courts. Et puis on fait des gros ballots, des gros ballons ronds ou des gros ballons carrés qui sont pas très
ouais. Là.
Alors que ceux-là, moi j'ai soumis quand j'avais chez les cousins et les oncles de mes parents, où ils avaient des trucs, on allait passer le week-end, on allait travailler avec eux, c'était plaisir, pour rigoler. Et donc on allait, là ils avaient des moissonneuses batteuses lieuses, donc sur place, ma cousine qui conduisait le tracteur, il y en avait un qui était sur le côté qui récupérait le blé, et puis les ballons ils étaient largués au fur et à mesure. Donc derrière on faisait passer une remorque, les ballons on les prenait à la fourche, et on les montait sur le truc. Alors au début c'est tout vrai, puis après ça montait en hauteur, parce que tu montes en bout de truc. T'avais quelqu'un comme le gars qui était en haut, qui récupérait les ballons, puis les calait pour pas que ça tombe. Et puis après on prenait la route. On passait les après-midi à trimballer du ballon comme ça, avec une fourche à deux dents. T'avais pas besoin de la fourche à trois dents, t'avais juste une fourche à deux dents qui te permet de piquer comme ça, t'avais un long manche. Alors au début, quand tu piquais, tu te mets en bas du manche. Après tu montais comme ça sur ton genou, bien sur ta main. Basculer, puis tu le montais tout en équilibre, pouf, tu faisais descendre dans le.
C'est un geste.
Dans la biba. Bah, t'apprenais le geste, c'est pas. C'était marrant à faire. Bah, c'était marrant. Quand tu fais ça une après-midi, ça va, le lendemain, t'as un peu des. T'es fatigué, mais c'est tout. Quand c'est ton métier, c'est beaucoup plus dur, évidemment.
Ça y arrive bien.
Découper à l'assiette quand on est.
À l'assiette,
ouais.
Après, il faut enlever le fond.
Ouais. Et puis vous mettez un.
Il faut l'enlever avant.
Ouais.
Il est voilà.
effectivement, on peut faire des trucs super. Hein. Alors, plusieurs épaisseurs avec du fond.
Là, ça m'arrive vraiment compliqué quand même. Hein. Avoir la symétrie, travailler.
La symétrie, tu la dessines. Oui. Tu dessines sur ton fond, puis après tu travailles. Mais par contre, pour arriver à garder le parallélisme sur autant d'épaisseur, faut y aller en douceur, faut pas appuyer sur le fil, sinon il reste de travers et tout. Ouais, non, ouais, on a envie de jouer avec du bois.
Je vais vous donner une revue couleur bois.
Couleur bois, oui.
Vous connaissez. Mmh. On a pas
mal de résistance. Oui, parce qu'elles se travaillent de pas de la même manière. Donc on va essayer. J'en ai fait un peu, mais j'ai pas de tour. Mais j'avais fait ça avec une perceuse que j'avais mis sur de base, quoi. J'ai parti de ça. Et puis de l'autre côté, j'avais mis une poupée. J'avais mis un mandrin de perceuse qui était libre, qui tournait librement. Donc du coup, j'ai plus personne entre les deux colonnes, j'ai fait un petit truc, histoire de découvrir ça. Et c'était marrant, c'était vraiment très amusant à faire. J'aime beaucoup ce côté de partir du bois brut, et puis l'inspiration amène la forme que l'on va lui donner. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire, et puis à la fin, on a un truc. Parfois, on n'a rien.
Mais... On rappelle au début, les premiers objets.
Ouais.
Ça me va bien. J'étais heureux.
Ah bah oui, bien sûr, oui, c'est un vrai plaisir de créer.
Il est plus content que de faire ça maintenant.
Peut-être, oui. Trop mécanique, trop habitué, trop mécanique. Après, on finit par dire, ah, on va complexifier les choses en mettant des essences différentes.
Depuis le début, moi, j'ai eu envie de faire du collage, parce que je mets dans ma tête qu'en mélangeant des
essences,
des essences.
Ouais, c'est très
bien. J'ai travaillé du bois échauffé.
Ah oui.
Je voulais toutes les couleurs quand je commence à s'abîmer.
Ah, d'accord.
Il est plus fragile.
Il n'aura pas le temps de faire au collège.
Peut-être, oui. Voilà. Je vais redonner un coup. Là, pour les faire. Ah bah, oui.
C'est marrant ça, c'est pas compliqué à faire.
C'est pas compliqué.
Faut être précis.
Mais une canne en caoutchouc. La bonne continuation, monsieur, en tout cas. Au revoir.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez apprécié, je vous invite à aller sur le véritable site de Benoît, où vous pourrez écouter tous ces épisodes de La Diagonale du Vide. L'adresse, c'est ladiagonaleduvide, en un seul mot, .wordpress.com. Et la musique est de Kevin MacLeod. À bientôt, ici ou ailleurs.